L'invité de la rédaction.
L'invité de la rédaction est Monsieur Alain Minc et nous allons ensemble parler de ses présidents. Enfin, le livre s'appelle « Mes présidents » de Gaulle à Emmanuel Macron. Alors, je vous le disais hors antenne, Alain Minc, vous avez écrit un bouquin absolument formidable parce que quand on les connaît tous, ce qui est mon cas, c'est un véritable bonheur parce qu'on les retrouve et on les découvre d'ailleurs comme parfois on ne les connaissait pas. Vous m'avez écrit un Pompidou. Vraiment, dont je ne me doutais pas qu'il était celui-là. Et puis, j'ai eu envie de le faire lire à mes enfants.
C'est très bien.
En me disant, comment est-ce que quand on a 20 ans et qu'on est un futur ingénieur, on lit un livre comme ça? Et à ma grande surprise, Pompidou n'était pas du tout connu, mais enfin connu, évidemment, les noms étaient connus. De Gaulle, bah, c'est plus le général qui est connu que l'homme politique. Toute la période 68, on va y revenir... C'était une découverte pour eux. Et Pompidou, d'ailleurs, n'était pas du tout dans cette histoire-là. Donc, comme si les choses étaient un peu déconnectées dans leur esprit. Chirac avait beaucoup de sympathie, c'est-à-dire qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il avait fait, mais c'était le type sympa, presque le pote qu'on a envie d'avoir. Et en fait, les trois présidents qu'ils ont connus, eux, puisque je l'ai fait lire à deux de mes enfants, eh bien, c'était Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Mitterrand étant une sorte de mythe, un peu comme De Gaulle d'ailleurs. On ne savait pas très bien ce qu'il avait fait. Si, certaines, les radios libres, tout ce qui les concernait de près, mais pas vraiment l'action politique, pas la bête féroce qu'il a pu être en politique. Donc, ce livre, finalement, il est intergénérationnel parce que chacun y trouve son compte. Et je voulais, voilà, vous faire part de cette un peu longue introduction.
Mais c'est adorable.
Mais voilà, pour vous dire combien et comment, en tout cas, il est reçu. Alors, on va commencer par le commencement avec De Gaulle. Alors, vous avez regretté de ne pas être gaulliste.
Non, mais je t'explique, parce qu'en effet, ça s'appelle « mes présidents » avec « mes » entre guillemets, parce que sinon, ce serait ridicule. Moi, je suis issu d'une famille communiste. Donc, c'est la première phrase du chapitre sur De Gaulle, j'ai été nourri au biberon de l'antigaullisme. Alors, comme j'ai voulu m'émanciper un peu de mes parents, je suis devenu mendéciste, qui était déjà un grand, grand mouvement par rapport à des parents communistes. Et je me suis, à l'âge où on s'émancipe, je me suis arrêté là. Donc, j'ai découvert un deuxième antigaullisme, qui était l'antigaullisme de Pierre Mendès-France. Et au fil du temps, en partie d'ailleurs parce que la vie m'a permis de connaître des proches du général de Gaulle, que j'admirais, les proches. Et donc, je mesurais leur propre admiration pour De Gaulle, et puis par un nombre incalculable de lectures, y compris d'un livre qui a été publié en France après que j'ai écrit ce petit bouquin, mais que je conseille à tout le monde, qui est la première biographie d'un très grand historien anglais sur De Gaulle, qui s'appelle Julian Jackson, et qui est à mes yeux la meilleure biographie sur De Gaulle, et on en a tous lu des dizaines. Voilà, donc c'est un personnage, au fond, qui m'intéresse par son côté surréaliste. Et la phrase que je préfère de De Gaulle, à toutes les phrases rituelles, c'est une phrase peu connue, mais que je trouve incroyable, digne de Tristan Tzara. De Gaulle dit « Après ma mort, on édifiera une croix de Lorraine au-dessus de Colombey, les deux églises. » Bon, d'accord. Et il ajoute « Elle appellera les lapins à la résistance. » C'est un type qui est capable de dire ça après la trajectoire qui a été la sienne, cette espèce d'attitude missionnaire, on se dit il est totalement hors du commun.
Alors, ce qu'il y a de flagrant quand on vous lit, si on prend le premier et le dernier, c'est-à-dire si on prend De Gaulle et Macron, ce qu'on sent très très bien, je l'ai un tout petit peu moins senti avec les autres, mais ce qu'on sent très bien, c'est que et l'un et l'autre ont une idée de la France. C'est-à-dire qu'ils incarnent une France, ils incarnent un projet qui n'est pas un projet, mais qui est la France. Alors, on le voit très, très bien dans De Gaulle. Et puis, on se souvient, moi, j'ai revu les images de l'INA où il est interrogé, où il parle de cette fameuse idée de la France qu'il a. Mais on le retrouve aussi chez Macron, peut-être un petit peu moins chez les autres présidents, cette incarnation. C'est le mot incarné.
J'appelle le chapitre sur Macron un ovni habité et pas ambitieux. Il y a une grande différence, à mes yeux, entre être ambitieux et être habité. Prenez Valéry Giscard d'Estaing, qui a été plutôt un bon président. Pour lui, le fait d'accéder à l'Élysée était de l'ordre naturel des choses. Il était ambitieux et légitimement ambitieux. Macron, il croyait, c'est pour ça qu'il s'est présenté dans cette espèce de cavalcade quand même surprenante, il croyait à une forme de mission qu'il avait pour la France. Une petite parcelle de folie à ce sens-là. C'est en ça que c'est un personnage pas banal. Mais comme vous l'avez lu dans ce chapitre, c'est quelqu'un que je connais bien, je l'ai vu naître à la politique, pas naître à la vie, mais naître à la politique. Je ne tombe pas dans l'adoration mystique que rétrospectivement j'ai pour De Gaulle. Macron, c'est encore un être en devenir.
D'ailleurs, la première fois où vous le croisez, vous lui posez la question traditionnelle, où vous voyez-vous dans 30 ans ? Il vous répond « président de la République », ce qui prouve qu'il a toujours été, à ce moment-là, habité par la fonction présidentielle et par cette mission. Et plus loin, vous appelez de vos voeux à sa réélection en 2022. Et en fait, vous dites que 2022, ça sera un moment charnière pour la démocratie française. C'est-à-dire que si en 2022, Emmanuel Macron est réélu, cela fera barrage au populisme dans les décennies à venir. En tout cas,
dans les décennies, non. Mais écoutez, je suis lucide comme vous l'êtes face à la vague. Il faut quand même avoir en tête qu'en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est face à Jacques Chirac, il augmente son score entre le premier et le deuxième tour de 2%. Marine Le Pen augmente face à Emmanuel Macron son score de 14%. 14%, ce n'est pas une génération spontanée, ils viennent de quelque part. Donc ce sont des électeurs qui l'ont rallié au deuxième tour. Quand vous voyez le premier sondage sur la présidentielle qui a été fait après le Covid et qui est très intéressant, et qui donne au premier tour Macron et Le Pen 28% chacun, la droite démocratique 12%, ce qui est très intéressant sur la nature de l'électorat d'Emmanuel Macron, vous apercevez que ça donne un deuxième tour. Bon, heureusement, Macron gagne 55-45. 55-45, ça veut dire qu'elle a encore une capacité de ramener des voix au deuxième tour. Et ça veut dire qu'on entre dans la zone dangereuse. Donc quand je dis c'est l'élection la plus problématique de la Ve République, c'est ce que je veux dire, c'est la première élection où la menace populiste pourrait se transformer, le cas échéant, en cette catastrophe que serait sa victoire.
Les Français, c'est très clair à la lecture de votre ouvrage, Mes présidents, paru aux éditions Grasset, Alain Minc, ont un rapport qui est un rapport extrêmement complexe, non seulement avec le pouvoir, mais également avec ceux qu'ils élisent pour représenter ce pouvoir.
Non, mais les Français sont très compliqués parce qu'ils sont à la fois monarchistes et insatisfaits. Alors, les présidents de la Ve République, pas des républiques précédentes, sont les héritiers des rois. Et d'ailleurs, la constitution de la Ve République a été faite pour un roi surnaturel qui était De Gaulle. Et cette constitution n'est vraiment devenue notre loi commune quand un autre roi est arrivé, qui est François Mitterrand. La Ve République s'installe quand la gauche se trouve à l'aise avec elle, comme la droite l'était. Bon, donc c'est un système monarchique. Au même moment, ou pendant la même période, depuis 1981, les Français change à chaque élection nationale, que ce soit élection présidentielle ou élection parlementaire. Ils sont comme un insomniaque qui ne cesse de se retourner dans son lit, à la différence de notre principal partenaire qui est l'Allemagne. Je veux dire, Angela Merkel en est à sa quatrième élection. Elle a connu trois présidents des États-Unis et quatre présidents français. Et cinq premiers ministres britanniques. C'est dans un déjeuner où j'étais à côté d'elle, je lui dis ça, elle me dit « mais vous oubliez que j'ai eu aussi cinq premiers ministres britanniques ». Bon, donc il y a cette nature des Français, à la fois très révérents à l'égard du pouvoir, très insatisfaits à son endroit, très rebelles et très respectueux. Ce sont des contradictions qui font le charme de ce pays.
Alors, les présidents sont des rois, mais le peuple reste le peuple. Et pour le coup, on a l'impression que le peuple est plutôt Révolution française ou côté Révolution française, ce qui veut dire que la rue a une importance qui est une importance capitale. Et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, une rue qui est capable de faire vaciller le pouvoir, 68 évidemment, mai 68, les Gilets jaunes, Je prends que des grandes crises, mais sous Juppé, quand, pendant la réforme des retraites aussi, la France est dans la rue. Donc il y a un côté, effectivement, les rois sont là, mais la révolution...
Non, non, attendez, il faut distinguer. Il y a deux rues. Il y a la rue qui était occupée par les grands syndicats quand ils étaient capables de l'occuper. En effet, c'est en 95, les grèves de l'automne 95. C'est une rue ordonnée. Et les grands syndicats sont un facteur de l'ordre démocratique. Et en 68, le pouvoir ne vacille pas parce que la CGT, aux ordres du Parti communiste, lui-même aux ordres à l'époque de Moscou, décide que son intérêt, que l'intérêt de l'Union soviétique, c'est la permanence du général de Gaulle. Il ne faut jamais oublier qu'après la démission de Gaulle en 69, au deuxième tour de l'élection présidentielle, Georges Pompidou se trouve... face à Alain Poher, expression d'un centrisme mou, avec le soutien de la gauche et de tous les anti-gaullistes de droite, et Dieu sait s'il y en avait. Le Parti communiste, qui avait fait 21% à travers Jacques Duclos, le Parti communiste décide de s'abstenir. Il pouvait faire gagner Poher. Et en s'abstenant, il sait qu'il fait gagner Pompidou. Donc c'était une rue, mais une rue ordonnée. On a connu en effet... parce que les organisations syndicales se sont affaiblies, parce que les contre-pouvoirs se sont affaiblis, parce que les corps intermédiaires, eux aussi, se sont affaiblis, on a connu la rue, la vraie rue. Et c'est vrai qu'au moment des Gilets jaunes, à un moment, c'était la rue face au pouvoir. Enfin, la rue, une appropriation de la rue. Et donc, à ce moment-là, on entre dans des zones beaucoup plus risquées et beaucoup plus dangereuses. Et je crois que la semaine entre le 1er décembre et le 8 décembre, c'est-à-dire les deux samedis durs, les plus durs, y compris le premier avec le tagage de l'Arc de Triomphe, c'est une semaine où on a vu que le pouvoir en France peut être à la fois extrêmement fort et très fragile. Et il faut l'avoir à l'esprit. C'est quelque chose que Nicolas Sarkozy a toujours eu en tête, puisqu'il disait de lui-même « ce pays est régicide ».
Un mot de Pompidou, parce que vous l'évoquiez à l'instant. Et en parlant de Pompidou, il est apparu, quand on lisait le chapitre notamment sur De Gaulle, qu'il y a une solitude du pouvoir. En 68, De Gaulle s'en va. Alors, vous faites un portrait de De Gaulle où il est un peu... Enfin, de temps en temps, il va bien. Et puis, de temps en temps, il a des petits coups de déprime, etc. De Gaulle part. Il ne dit pas où il est. Pompidou se retrouve seul. Et les deux, en fait, sont l'expression d'un pouvoir solitaire. Et ben, c'est là que Pompidou prend les choses en main d'une certaine façon.
Non, mais nos institutions monarchiques fabriquent la solitude du pouvoir. Dans un régime parlementaire, il n'y a pas de solitude du pouvoir suprême. Pourquoi ? Parce que le défenseur de ce pouvoir est en négociation permanente. Son métier est de passer des compromis. C'est le propre de la démocratie parlementaire. Dans notre système, et aux États-Unis, il en va de même. Le régime présidentiel américain est un régime à certains égards faible, puisque le président est obligé de passer des compromis permanents avec le Congrès. Alors, nous avons des institutions très particulières et dont j'admire beaucoup la souplesse qu'on verra peut-être a fortiori en 2022. C'est un régime totalement monarchique quand l'Assemblée nationale est de la même couleur que le président de la République. C'est un régime où il y a deux légitimités qui s'affrontent et qui doivent se concilier quand la représentation nationale est en contradiction avec le président. Et ce furent ce qu'on a appelé d'un mot poli les cohabitations. On en a connu trois quand même. Et puis si, comme je le souhaite, Emmanuel Macron est réélu, il est évident que son parti gazeux, qu'on appelle En Marche, une espèce d'objet très fuligineux, que ce parti n'aura jamais la majorité absolue de l'Assemblée nationale. Donc on aura un troisième type de scénario politique qui sera... un gouvernement de coalition à l'initiative du président de la République. Et ça, c'est une expérience que je trouve extrêmement intéressante, parce que c'est peut-être ce dont nous avons le plus besoin. C'est-à-dire le pouvoir fort du président et néanmoins des accords de coalition qui fabriquent un vrai consensus.
Notre invité Alain Minc, mais président, c'est aux éditions Grasset. Alors, Pompidou, c'est un Pompidou libre que vous décrivez. Et c'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir, très libre par rapport à De Gaulle, où on a la sensation que De Gaulle fait régner comme ça une sorte de chape de plomb. Mais Pompidou exige, fait, dit, et surtout, De Gaulle l'écoute.
Non, mais Pompidou devait, c'est une des raisons pour lesquelles on peut penser que c'était un type exceptionnel, devait avoir une force intérieure incroyable pour que De Gaulle, en réalité, lui laisse son autonomie. Mais le début de cette histoire est quand même fascinante. Pompidou est un prof brillant, normalien, dont la guerre est d'une médiocrité absolue.
Vous le décrivez.
Il ne porte même pas trois tracts. Il arrive à se faire embaucher via un ami commun normalien qui s'appelait René Brouillet au cabinet du général De Gaulle. Et puis il finit petit grouillot au cabinet par s'imposer, au point de devenir un pivot du gaullisme après le départ du pouvoir du général, de recevoir ce geste très significatif dans la gestuelle gaulliste qui est de devenir le secrétaire général de la fondation Anne de Gaulle, c'est-à-dire sa fille trisomique. C'est un geste incroyable de confiance, de pouvoir quitter De Gaulle pour entrer dans la banque, il va à la banque Rothschild, de revenir comme directeur de cabinet de De Gaulle pendant les 6 mois qui passent à Matignon et lui dire « maintenant je repars », de refuser d'être ministre des Finances à De Gaulle, De Gaulle accepte, et au fond de n'accepter que d'aller à Matignon, et quand il arrive à Matignon, de ne rien changer à son mode de vie, continuer à conduire une Porsche, continuer à aller aux vacances à Saint-Tropez, continuer à sortir à l'inverse du hiératisme du gaullisme. Et la réponse à cette force de Pompidou, elle m'a été donnée par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dans ma vie, beaucoup admiré, qui était un des vrais féaux du général de Gaulle, Étienne Burin des Rosiers, qui avait été mon patron de stage à l'ENA. Et je lui dis, mais comment vous, les vrais gaullistes, vous qui étiez à Londres en juillet 40, septembre 40, comment vous avez pu accepter comme chef ce type avec une guerre si médiocre? Et Burin m'a tout dit. Il m'avait répondu, mais il était tellement plus intelligent que nous.
Alors, un mot encore sur Pompidou, parce que il y a quelque chose qu'on oublie aussi souvent quand on est juste un électeur, c'est que ces hommes ont des sentiments. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la Fondation Anne, mais Pompidou va en vouloir également à De Gaulle lorsqu'il ne se sent pas défendu quand Claude De Gaulle est attaqué.
Mais De Gaulle avait de très grandes petitesses. Je le décris dans ce bouquin comme un homme dont les contradictions étaient le moteur. D'habitude, dans la vie, les contradictions sont un frein à l'action. Chez De Gaulle, les contradictions étaient un moteur. L'attitude de Gaulle à l'égard de Pompidou, qui l'avait si bien servi au moment de l'affaire Markovitch, est une attitude inacceptable. Je veux dire, comment pouvait-il croire que cette femme avait partousé? Et il aurait fallu simplement qu'il dise un quart de phrase pour que cette affaire se calme immédiatement. Donc De Gaulle ne s'est pas bien conduit, et on peut trouver normal que Pompidou lui en ait voulu, et ça a certainement joué un rôle dans la déclaration de candidature de Georges Pompidou, disant « un jour je serai candidat ». Or, c'était avant le référendum et c'était un message subliminal à l'électorat gaulliste et à la droite française qui était « ne vous inquiétez pas, s'il est battu au référendum, l'avenir est assuré ».
Alors, Giscard, on en a un peu parlé. C'était le candidat qui n'avait pas forcément la grande ambition française, mais qui a été président de la République parce que c'était écrit qu'il soit président de la République.
Giscard, il y a deux choses qu'il faut mettre à l'actif de Giscard d'Estaing. Ça a été une modernisation de la société française quand il est arrivé au pouvoir. Alors c'est évidemment la loi sur l'avortement, mais ça n'est pas que la loi sur l'avortement. C'est le droit de vote à 18 ans, contre son propre intérêt. Ce sont les lois sur le divorce. C'est le premier ministère de la femme confié, et pas à n'importe qui, à Françoise Giroud. Donc il a modernisé la société française. Et il a donné sa pleine mesure sur une scène dont les règles correspondaient très bien à sa forme d'intelligence, qui était la scène européenne. Il a joué un rôle majeur dans la création de la monnaie commune à l'époque, mais qui était un préalable à la monnaie unique. Il a été à l'origine de l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Donc c'est quelqu'un qui a eu des apports majeurs. Mais il est un peu une transition face à l'arrivée du deuxième roi, qui est François Mitterrand.
Alors, un mal-aimé quand même, Valéry Giscard d'Estaing.
Parce qu'il a été battu, mais il n'a pas été le seul. Bon, c'est très difficile d'être élu hors cohabitation. C'est pour ça que j'espère que Macron fera démentir cette règle jusqu'à présent respecté.
Alors, Mitterrand, évidemment, c'est le roi.
C'est, oui, mais Mitterrand, c'est très compliqué. Comme je suis sur votre antenne, une antenne juive, je vais...
Vous avez un chien de sa chienne avec lui.
C'est quand même absolument incroyable sur les complexités de François Mitterrand. Dans les mémoires orales qu'il donne à Georges-Marc Benamou à la fin de sa vie, il est évidemment interrogé sur Bousquet. Et il a la phrase suivante. Il dit « Bousquet était au confluent de la politique, des médias et des affaires, c'était l'Alain Minc de l'époque. » C'est-à-dire qu'il prend comme référence vis-à-vis de Bousquet quelqu'un dont les parents auraient pu être pris dans la rafle du Veldiv, puisqu'ils sont entrés dans la clandestinité en réalité, parce que les communistes étaient bien plus informés que les autres, quelques jours avant. Donc, quel est l'inconscient qui amène Mitterrand à faire cette comparaison ? Et je pense que la relation de Mitterrand avec l'univers juif était très compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, il était philosémite à un point extrême pour essayer de contrebalancer un antisémitisme venant de loin et qui circulait en lui. Bon, une fois qu'on a dit ça, je dis au début du chapitre sur Mitterrand ce que je pense. Je dis, je ne connais personne qui peut prétendre être sorti indemne de ses relations avec François Mitterrand. Parce que c'était aussi un monstre de séduction. C'était un type d'une complexité folle. De Gaulle était un type de contradiction immense. Mitterrand était un homme de complexité folle. Et donc, on pouvait qu'être fasciné, excédé, admiratif, hostile. Enfin, vous n'aviez pas un sentiment simple à l'égard de...
Un grand président ?
Un président majeur, pour une raison simple. Il a fait accepter à la gauche française les institutions, l'économie de marché. Outre le fait, ça c'est ce qu'il a fait presque sans le vouloir, mais c'est décisif. Outre le fait qu'il a fait aussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire il a tué le Parti communiste, il l'a étranglé avec un talent prodigieux, il a été un formidable bâtisseur de l'Europe, le grand marché et la monnaie unique, et il a été un pilier de l'alliance occidentale face à l'Union soviétique qui existait encore jusqu'en 89. Donc, à l'évidence, un personnage au legs historique immense.
Jacques Chirac, vous passez à côté.
Je ne passe pas à côté. Je dis de Chirac, vous devez y être sensible, que l'homme était probablement supérieur à l'homme d'État. Le Veldiv, l'Irak, le refus absolu du Front National. Et j'ajoute quelque chose, et je regrette de ne pas l'avoir dit plus clairement, d'avoir fait avec l'aide et l'action intense d'Alain Juppé, l'effort qui, quand il prend le pouvoir, permet de rétablir les comptes et de faire la monnaie unique. Donc, en fait, j'ai le remords de lui avoir donné 3 acquis alors qu'il en mérite 4.
On va peut-être parler également de Nicolas Sarkozy.
Oui, que vous avez très bien connu et que vous connaissez bien. Alors, vous le décrivez comme un entrepreneur de la politique, un peu à l'américaine. Alors, vous décrivez évidemment son côté impatient, voire même colérique. Et pourtant, vous louez son calme dans les moments de crise, dans les moments compliqués, comme la crise financière de 2008, où là, vous êtes impressionné justement par sa prise de recul et son calme.
Je pense qu'il en va de Sarkozy comme de tous les gens qui ont trop d'adrénaline, et j'en connais d'autres. Quand vous avez trop d'adrénaline et que la vie est un long fleuve tranquille, bah vous faites bouger la table, vous donnez des coups, vous êtes suractif. Et en revanche, quand la crise est là, vous êtes au bon niveau d'adrénaline. Et en effet, j'ai été très impressionné, je le dis, par l'attitude de Sarkozy pendant la crise financière, qui, à mains égards, était, personne ne le mesure, plus grave que la crise actuelle. C'est-à-dire, la crise actuelle, c'est une cicatrice très lourde dans l'itinéraire économique du monde occidental. La crise de 2008 aurait pu tuer le système. On a été à un millimètre de basculer. Et il y a eu 10 jours, et ça, vu mes liens avec Nicolas Sarkozy, je les ai vécus de près, il y a eu 10 jours où il a été le point d'ancrage du monde occidental. Bien plus qu'un président des États-Unis, qui c'est George W. Bush, qui était quasiment dépressif, bien plus qu'une chancelière qui a été en retard sur l'événement. Et il y avait un autre personnage qui a joué un rôle majeur, qui était Gordon Brown, le Premier ministre britannique. Mais le chef de l'Union européenne, à cause du fait que c'était la présidence française, était Sarkozy. Et ce que je dis à la fin du chapitre, c'est que c'est l'amitié qui parle. Je voudrais que l'histoire garde de Sarkozy ce souvenir-là, qui est ce type a sauvé pendant 10 jours, je le crois, le monde occidental. Et c'est pas si mal, 10 jours, vous sauvez le monde occidental dans une vie.
François Hollande. Vous êtes le seul. Parce que vous trouvez qu'on est injuste finalement avec lui.
Je trouve qu'on est injuste avec François Hollande.
Alors vous parlez,
il a été au niveau de la fonction politique étrangère.
Oui, vous revenez sur le Mali, vous revenez sur le terrorisme, sur le
niveau de la fonction face à l'événement dramatique que furent les attaques terroristes. Et il s'est comporté sur la politique intérieure, non pas comme un président de la République française, mais comme le premier ministre social-démocrate d'une monarchie scandinave. Alors ça, ce n'est pas en effet nos institutions. Mais vous savez, quand vous avez été 10 ans premier secrétaire du Parti socialiste, vous êtes complètement déformé. C'est-à-dire le Parti socialiste quand il existait, pas aujourd'hui. C'est-à-dire votre vie est de passer des compromis de 7h du matin à 2h du matin du jour suivant. Donc il a été obéré sur le plan de la politique intérieure par, au fond, cette courbe d'apprentissage-là qui n'était pas le meilleur apprentissage de la décision politique. Mais il n'a pas déshonoré, loin de là, les institutions, et il a tenu le rôle du président français dans le jeu international et européen. C'est lui qui arrache à Merkel la non-expulsion de la Grèce de la zone euro. Non, je veux dire, c'est honorable.
Une question Condissada.
Oui, sur Emmanuel Macron, j'y reviens.
Vous voulez qu'on termine sur Emmanuel Macron?
Oui, en tout cas, c'est le souhait de Paul Henriette. Effectivement, Emmanuel Macron, vous le dites, pas forcément ambitieux, mais habité. Comment faire la distinction? Est-ce que c'est pas forcément un ambitieux? Comment vous voyez l'après-présidence pour Macron?
Je dis de Macron, alors pour tout le monde prend le mot à propos du livre, sans oublier que je mets un A majuscule. Je dis que Macron a un côté aventurier avec un grand A, au sens où André Malraux définit l'aventurier, dont le modèle ultime pour Malraux est Laurence d'Arabie. Donc, de ce point de vue, je n'ai aucune idée, et il n'en a, à mon avis, aucune, de ce que sera sa vie après l'Élysée. Ça, c'est le propre de ce genre de tempérament. Alors, il aura une vie après l'Élysée, vu son âge. Mais je ne sais pas ce qu'il en fera. Il ne sait pas ce qu'il en fera. Et puis, ça n'est pas la question.
Une dernière question, et c'est impossible de vous avoir à nos côtés sans vous la poser. Comment est-ce qu'on conseille des gens qui sont tellement différents? Quelle est la relation qui peut vous unir avec ces monstres, je mets le terme entre guillemets?
Non, mais ce n'est pas les mêmes relations. Pour qui a la gentillesse de lire le livre, on voit bien que j'ai vu une relation difficile avec François Mitterrand, mais une vraie relation, qu'avec Jacques Chirac, mauvaise pendant sa présidence, puisque j'avais voté Balladur au premier tour de la présidentielle et Jospin au second tour. Donc ça, c'est vraiment le mec qui ne veut pas qu'il soit élu. J'ai une relation intime avec Sarko, intime, très proche avec Macron. Je connais bien François Hollande, mais je n'ai pas une relation intime. Ce sont des relations de nature différente. Voilà. Vous savez, moi, je ne vis pas dans ce monde-là. Je le connais très bien, mais je n'en vis pas. Au fond, certains d'entre eux découvrent que seuls des gens qui ne sont pas dans leur système peuvent être libres. Et je raconte une anecdote, si vous me permettez de terminer sur cette anecdote. Nicolas Sarkozy, le lendemain de son élection, me dit « Qu'est-ce que tu prends ?»
Rien.
Je réponds « Rien ». Il me dit « Pourquoi rien ?» Je lui dis « Écoute, on a chacun dans la vie notre snobisme. Et moi, mon snobisme, c'est de dire au type qui occupe le bureau du général de Gaulle « Qu'est-ce que tu déconnes ?» Et pour te dire « Qu'est-ce que tu déconnes ?», il ne faut pas être ton employé.
Merci infiniment Alain Minc. Je noterai quand même que eux n'ont fait que passer et que vous êtes restés et que vous les avez tous connus.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.